Tour sur Radio Campus Tour. Chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de Chaille. On se rend dans le 41 et plus précisément, on se rend à la clinique de la Chaînaie. Et avec moi en studio pour en parler, puisqu'il y a une situation qui le nécessite, j'ai avec moi deux invités. Alors tout d'abord, merci à vous d'être là. Bonjour Magali Tostin.
Bonjour.
Alors Magali Tostin, vous êtes en charge de la programmation du club de la Chaînaie, est-ce bien ça?
Oui, c'est ça.
Voilà, donc vous nous en direz plus plus tard. Et avec vous, donc Gwen Vael, Loa Harer, bonjour.
Oui, bonjour.
Et donc vous êtes moniteur.
Oui, c'est ça.
À la clinique de la Chaînaie. Alors tout d'abord, peut-être qu'on peut commencer par dire un mot rapide sur les raisons de votre présence ici.
Bah, la raison pour laquelle on vient, c'est qu'on travaille dans une clinique psychiatrique qui... dès sa création dans les années 50, a été vraiment créée dans une perspective progressiste et humaniste pour les patients accueillis, donc à Chaille, dans le Loir-et-Cher. Et on vient aujourd'hui, puisque cette clinique va être mise en vente. Le directeur actuel, qui est un médecin directeur, doit partir à sa retraite. Et donc du coup, nous souhaitons que dans le cadre de cette vente, en tant que salarié, nous souhaitons reprendre la clinique de l'intérieur et en faire une SIC, et donc c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà.
Alors pour qu'on comprenne bien pourquoi les moniteurs et peut-être les personnes qui viennent à la Chaînaie tiennent autant au fonctionnement actuel de la Chaînaie qui pourrait être mis en cause dans le cadre de cette vente, peut-être voulez-vous nous expliquer plus en détail ce cadre spécifique, la clinique de la Chaînaie?
Alors oui, effectivement, la clinique de la Chaînaie, c'est vraiment un lieu particulier pour plusieurs raisons. Alors d'abord, c'est une clinique privée, ça veut dire que c'est pas la même chose que tout le service public qui existe. À ce jour, l'ensemble de l'offre de la psychiatrie est majoritairement couverte sur le territoire par le service public, ce qu'on appelle le secteur de psychiatrie. Et donc toute personne qui a des difficultés de santé en psychiatrie est prise en charge par un secteur en fonction de son adresse. Et donc il y a un maillage territorial qui est assuré par ce qu'on appelle... voilà, ce secteur-là de psychiatrie, et qui permet que normalement personne ne soit isolé des soins. Et la clinique où on travaille, c'est une clinique qui est reconnue comme un dispositif supplémentaire à cette offre de psychiatrie nationale, avec des outils qui sont différents, qui sont liés à ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Et donc on accueille des personnes qui peuvent venir de la France entière, en fait, adressées par leur médecin. On accueille en général... un tiers des pensionnaires qu'on accueille viennent du Loir-et-Cher, un grand tiers de la région parisienne, et puis un autre tiers du reste de la France. Et la façon dont on travaille, c'est qu'on fait beaucoup de choses avec les patients. On prend le temps, en fait. On prend le temps du soin. Le secteur de psychiatrie, en général, on travaille main dans la main avec eux, mais ils n'ont pas les mêmes moyens, et notamment sur les durées d'hospitalisation. Et nous, on peut avoir des durées d'hospitalisation plus longues, c'est ce qui se passe vraiment en général. Et donc, des personnes peuvent rester plusieurs mois en hospitalisation libre, pris en charge par la Sécurité sociale, et avoir du temps pour se reconstruire, avoir des possibilités d'aller-retour aussi sur leur secteur, qui peut aussi leur aider. Et on a un dispositif de soins qui va leur permettre de se reconstruire sur du temps long, on fait beaucoup de choses avec eux. En fait, on a une organisation du travail qui permet de faire la cuisine ensemble. On va préparer, alors on va parler du club de la Chaînaie ensuite, mais on a toute une activité culturelle aussi. On fait vraiment beaucoup d'activités ensemble, et les pensionnaires qu'on accueille vont pouvoir être acteurs de leurs soins, participer à la vie quotidienne et avoir beaucoup d'occasions d'activités avec des soignants dans un environnement bienveillant, et qui leur permet d'avoir tout un tissage relationnel bienveillant autour d'eux, le temps de leurs soins, parce qu'on accueille des personnes qui souvent sont très inquiètes par rapport à leurs relations, aux personnes qui sont autour d'eux. On accueille des personnes qui, pour beaucoup, vont avoir des difficultés du côté du délire, du côté de l'angoisse, du côté de la paranoïa. Et donc, le travail qu'on fait au quotidien, c'est vraiment... un travail de prise en soin et de mise en confiance pour avoir un environnement bienveillant et ouvert. Parce que les lieux en eux-mêmes, les lieux où on accueille de la clinique, c'est un ancien château de la Loire. C'est pas du tout un établissement qui a vécu le passé asilaire comme d'autres établissements de soins. C'est vraiment un lieu ouvert, en lisière de forêt. Il n'y a pas de mur de clôture. On peut aller venir vu du dessus. Les bâtiments ressemblent un peu à un archipel. On circule vraiment. Il y a une liberté de circulation et ça fait partie des principes de cette psychiatrie-là qu'on appelle le mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Et c'était un mouvement qui est apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec vraiment des idées progressistes, novatrices pour humaniser les soins. Et c'est ce mouvement-là qui était à l'origine de ce qui est devenu la psychiatrie de secteur aujourd'hui, et aussi avec le mouvement du côté des clubs thérapeutiques dont on va parler un peu plus tard.
Alors, est-ce que les personnes qui viennent à la Chaignée, c'est parce que les soins traditionnels à l'hôpital ne marchent pas très bien dans leur cas ?
Ça dépend des situations. Dans certains cas, oui, on peut le voir comme ça, mais en fait, on travaille vraiment main dans la main avec les secteurs, c'est-à-dire que les secteurs nous adressent des personnes et ont repéré qu'à la clinique, il y avait des soins qu'ils ne pouvaient pas faire avec les moyens qu'ils ont. Et donc, on prend du relais, on prend du temps. Et en fait, la plupart les patients qui viennent ont vocation, le plus souvent, à retourner sur leur secteur en allant mieux. On fait tout pour reprendre, soit aller du côté d'un foyer, soit reprendre une activité professionnelle, plus ou moins légère, accompagnée, etc. Et la clinique dispose de vraiment beaucoup d'outils et d'occasion d'être en activité. Par exemple, si on appelle la clinique, il y a beaucoup de chances pour que ce soit un pensionnaire qui décroche le téléphone, qui réoriente l'appel, et les pensionnaires prennent part comme ça à plusieurs activités dans la clinique, que ce soit on fait la cuisine ensemble, on fait le service de table ensemble, on fait le ménage ensemble de plusieurs lieux, pas tous, mais plusieurs en tout cas, et on a beaucoup d'occasions d'interaction. Il y a un bar qui existe, il y a une bibliothèque où les pensionnaires font ensemble, en binôme, des permanences pour permettre que cette bibliothèque puisse vivre. Et c'est une vraie bibliothèque dans le sens aussi où, par exemple, on a la même classification que dans n'importe quelle... On a la classification internationale. Enfin voilà, on a des outils aussi pour que chacun puisse se mettre en activité. Du côté de ces petits engagements-là qui rendent des services à l'ensemble de tous les Chaînéens, comme on dit à la Chaînée, c'est-à-dire ceux qui vivent à la Chaînée et qui y travaillent. Et on a aussi tout un tas d'ateliers, que ce soit le dessin, la poterie, le tennis, le sport collectif. On a beaucoup d'ateliers aussi parce qu'on... Ah oui, on est une clinique qui accueille relativement... qui accueille une centaine de patients et on est un peu moins d'une centaine de salariés dans cette clinique.
Alors vous avez aussi dit que les personnes étaient là dans le cadre d'une hospitalisation libre, donc c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour être là, qu'ils sont venus de leur plein gré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus et du coup, est-ce qu'il existe d'autres types d'hospitalisation ?
Alors effectivement, la psychiatrie en France, telle qu'elle est organisée, en général, quand les personnes ont des difficultés de santé du côté de la psychiatrie, ça se manifeste par des crises qui peuvent se manifester à la fin de l'adolescence, par exemple, c'est ce qui se produit le plus souvent, ça peut être plus tard. Et en général, les gens sont d'abord confrontés à la question des urgences psychiatriques avec du soin d'urgence, parce qu'on est dans une société où il y a de la méconnaissance sur toutes ces questions-là. Et donc, en général, le circuit, le parcours des personnes qui sont malades, c'est d'abord de rencontrer les urgences le plus souvent, ensuite d'être adressé à leur secteur de psychiatrie qui dépend de leur adresse postale. Et ensuite, sur ce secteur, elles vont être soignées. Il y a un traitement qui va être instauré à partir de ce moment-là jusqu'à ce que la crise diminue. Et dans la mesure du possible, il y a un accompagnement qui sera fait. Sur du moyen, long terme, en fonction de ce que la personne peut. Il y a dans le service public qui permet plusieurs types d'hospitalisation et de soins. Hospitalisation libre, en temps plein, par exemple, mais il y a aussi l'hospitalisation sous contrainte, qui est réglementée. Et il y a tout un tas de dispositifs plus légers encore, qui sont de l'hospitalisation libre, mais pas forcément en temps plein. Les hôpitaux de jour, c'est-à-dire les personnes viennent le matin et repartent en fin d'après-midi, restent la journée, avec l'idée que l'hôpital de jour permette un environnement contenant, avec des relations sociales saines, etc. Des activités aussi qui ne seraient pas possibles, parce que souvent, quand les personnes sont malades, elles auront tendance à se replier sur elles-mêmes, beaucoup, par crainte. Beaucoup de personnes sont vraiment terrorisées, envahies par des hallucinations, Et donc c'est tout un environnement extrêmement inquiétant. Et les dispositifs de soins sont là aussi pour permettre qu'il y ait une vie relationnelle, entre guillemets, adoucie, pour reprendre confiance dans l'environnement relationnel avec les uns et les autres. Et donc avec les hôpitaux de jour et aussi des consultations avec le CMP. Malheureusement, les CMP à l'heure actuelle sont largement surchargés. Il y a des temps d'attente en fonction des zones géographiques qui peuvent être vraiment dépasser le raisonnable. On est sur 6 mois, 1 an, parfois 2 ans en fonction des lieux d'attente. Et donc on a une offre de soins qui normalement fait partie du service public et qui est indue à la population. On a une offre qui à ce jour est en difficulté pour répondre à tous les besoins.
Donc vous avez aussi expliqué que à la Chesnaye, les personnes peuvent, avec des moniteurs, donc faire la cuisine, faire le ménage, somme toute, c'est toutes les activités du quotidien. Et peut-être qu'on peut préciser aussi que ce n'est pas forcément le cas dans des services à l'hôpital.
Exactement. On a vraiment à la Chesnaye un dispositif où, au prétexte de toutes ces activités-là et bien d'autres, on va être très en lien, parfois un pour un ou un pour un groupe de pensionnaires pour une activité. Et il va s'agir, enfin, notre travail, c'est vraiment de faciliter la vie quotidienne. Et du coup, on a une organisation du travail qui est spécifique. On a des changements de fonction. Moi, j'ai une formation de psychologue clinicien. J'ai différentes formations. Et j'interviens dans la clinique en tant que moniteur. Et chaque soignant a on va participer à ce qu'on appelle un changement de fonction, c'est-à-dire qu'on soit infirmier, psychologue, éducateur ou d'une autre formation, on va être amené à changer de fonction régulièrement, c'est-à-dire passer à la cuisine ou s'occuper un peu du club, s'occuper d'un secrétariat, etc. Et tous les 4 mois, on a la possibilité de changer de fonction dans l'institution. C'est vraiment une spécificité qui existe à la Chesnaye, qui a existé pendant longtemps à la Borde, qui est une autre clinique du Loir-et-Cher assez connue. Et cette organisation-là, elle est vraiment unique à ce jour, et ce n'est pas du tout la même organisation qu'on a dans le service public où les gens vont vraiment avoir des activités encadrées avec des infirmiers, et on n'a pas toutes ces activités en commun, moins en tout cas.
Et je pense aussi sur les activités du quotidien, sur l'idée de faire la cuisine ou le ménage, ces tâches-là sont rarement proposées aux personnes en fait, dans les services à l'hôpital. C'est des équipes professionnelles qui les assurent.
Oui, tout à fait.
Et donc, peut-être, j'imagine que si une hospitalisation dure longtemps, peut-être que les personnes désapprennent toutes ces choses-là. Donc là, en fait, il y a aussi, enfin, j'insiste là-dessus pour expliquer aussi que c'est important de faire ces choses-là.
Oui, ça procède vraiment de tout un mouvement d'accompagnement pour essayer d'aller chercher la personne là où elle est avec ses difficultés, parce que le mouvement de repli sur soi dans la maladie, il est vraiment très fort, très prononcé, et c'est difficile de lutter contre ça. Il y a vraiment besoin d'avoir un environnement bienveillant, répété, marqué, ancré dans le temps, pour réussir à construire des relations qui aident une personne à se remettre en mouvement. Une pensionnaire, on avait fait une émission de radio il y a quelques années, une pensionnaire avait témoigné de sa difficulté quand elle était arrivée. Elle se sentait absente dans son corps. Elle se sentait complètement absente. Alors elle comptait beaucoup de choses autour d'elle, les carrelages, les choses. Elle se raccrochait à ça. Et ce qui l'avait accroché, 3 mois après le début de son arrivée, c'était toute la préparation de la fête du premier de l'an. Et elle s'était vraiment réanimée de l'intérieur avec cette idée-là, le théâtre, les déguisements, etc. Et tout ça avait vraiment donné une opportunité qu'elle se ravive de l'intérieur, et elle témoignait de tout ça. Il s'agit vraiment à la clinique de se servir de tout un tas de supports et d'un environnement dynamique, en mouvement, pour tendre toutes les perches possibles pour pouvoir remettre du mouvement, de la vie, et que les personnes se retrouvent, se reconstruisent, en parallèle évidemment de tout l'accompagnement qui est fait avec les médecins psychiatres, les suivis en psychothérapie, les médiations thérapeutiques, les ateliers, etc. Donc c'est vraiment un dispositif qui est complexe et qui permet d'aider à différents niveaux.
Et alors juste une autre question, parce que vous parlez des moniteurs et des médecins psychiatres, pourquoi les médecins ne sont pas dans les moniteurs ?
Bonne question. Parce qu'il y a quand même tout un travail, enfin ils ont beaucoup de travail aussi, hein, d'accompagnement, et notamment la clinique permet qu'ils puissent voir les patients au moins une fois par semaine, et quand ça ne va pas, de resserrer les entretiens, puisque la clinique permet ça. Et dans le service public, ce n'est pas toujours possible. En réalité, beaucoup de secteurs sont en difficulté pour proposer des entretiens plus fréquents qu'une fois toutes les 4-5 semaines pour renouveler la prescription. Et malheureusement, c'est une pratique qui tend à se généraliser, mais au-delà de la volonté du personnel soignant, hein, c'est vraiment une dynamique plus large que ça. Et donc, les médecins psychiatres ont beaucoup de travail aussi. Ils peuvent participer aux ateliers s'ils le souhaitent, mais effectivement, ils ont beaucoup de travail de ce côté-là, parce que on est quand même une clinique de psychiatrie avec des choses. En psychiatrie, il se passe des choses pas faciles. Et donc, il y a beaucoup de travail aussi dans les consultations pour repérer quand est-ce qu'une personne a besoin de. Parfois, quand une personne va mal, la clinique permet qu'un pensionnaire puisse être vu par un médecin tous les jours. C'est vraiment un suivi rapproché et adapté aux besoins de la personne pour passer ces moments difficiles.
Et donc une hospitalisation libre, c'est-à-dire qu'on a le droit de partir?
Oui, oui, c'est ce qui se passe.
je précise pour les auditeurs. Alors peut-être une dernière question. On lit aussi sur le courrier d'admission qu'on trouve sur le site de la clinique. À son arrivée, durant une quinzaine de jours, vous ne pourrez pas avoir de contact direct avec la personne venant à la chaînée, donc pas d'appel ni de visite, vous pourrez correspondre par écrit, vous pourrez prendre de ces nouvelles téléphoniquement via les soignants de la clinique.
Ouais.
Et il est dit aussi que le téléphone est laissé aux personnes, mais que la carte SIM est mise en lieu sûr. Alors justement, pour les personnes peut-être qui ne comprendraient pas pourquoi il est nécessaire de faire ça, est-ce que vous voulez juste dire un mot là-dessus?
Par rapport au public qu'on accueille, on a vraiment besoin de ce temps-là pour rencontrer aussi la personne telle qu'elle est, dans son fonctionnement, et qu'il y ait une rencontre qui soit possible, que ce soit pas une personne qui simplement vient à la clinique sans y être, en étant accrochée au téléphone en permanence. Et donc effectivement, on a instauré cette règle-là depuis très longtemps, et qui permet à ce que chacun puisse venir, et en même temps, c'est le fait d'autoriser et d'encourager le passage à l'écrit, c'est vraiment l'idée que l'arrivée à la clinique, qui est un lieu de soins, permette de se mettre dans les dispositions du soin, avec la temporalité du soin aussi et la profondeur qui va avec, qu'on peut retrouver dans le temps d'une écriture d'une lettre, et qui change d'ordinaire en général, comme encore plus aujourd'hui on écrit peu de courriers. Cette règle là elle permet de réactualiser des choses avec les proches, avec la famille, et de se mettre en disposition vraiment se retrouver dans la dynamique de qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on va faire de cette hospitalisation, qu'est-ce qu'on va en faire de constructif de ce temps-là, parce qu'effectivement, ça peut sembler long, et ça vient effectivement faire un petit peu rupture par rapport à la temporalité actuelle où on communique en permanence, il y a tout un flot d'informations possibles, encore que chacun se situe différemment par rapport à ça. Et donc, effectivement, quand les personnes arrivent, il y a ces 15 jours-là, où on invite à un mouvement de retour sur soi pour se poser ces questions-là, avec la temporalité de l'écrit et puis aussi de la découverte du lieu. Parce que c'est un lieu qui est étendu un peu. Les lieux sont un peu étendus. Il y a beaucoup de personnes. On met du temps à s'identifier au lieu, à se repérer. Et ces 15 jours-là sont précieux pour apprendre à se connaître mutuellement, à ce qu'une relation de confiance puisse s'instaurer, à ce que les différents moniteurs aient le temps d'aller voir « Bonjour, on ne se connaît pas encore, moi c'est un tel, etc. » et que le contact puisse se faire à différents niveaux, et qu'il y ait vraiment une alliance thérapeutique qui se construise. Donc c'est vraiment une règle qui est là pour faciliter la construction de l'alliance thérapeutique aussi.
Donc si j'ai bien compris, c'est une façon de travailler sur l'ici et maintenant.
Oui, oui.
Voilà. Et donc dans ce travail, on a dit, il y a de multiples activités, dont le club thérapeutique de la chaînée. Alors, sur le site, il est appelé aussi club de la chaînée. Alors, pourquoi on passe de club thérapeutique à club de la chaînée?
Le club thérapeutique, c'est le terme un peu générique et historique. Les clubs thérapeutiques ont été inventés par François Tosquelles au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tout juste pendant la Seconde Guerre mondiale et après. Et le club de la Chênaie, oui, c'est le club thérapeutique de la Chênaie, mais voilà, c'est plus, il est identifié culturellement aujourd'hui comme le club de la Chênaie.
Mais il est tout de même thérapeutique.
Ben oui.
Voilà. Et donc sur ce point, on va pouvoir vous écouter, Magali Tostin, puisque c'est vous l'experte du club de la Chênaie. Donc vous allez pouvoir nous expliquer en quoi ça consiste.
Alors, à la toute base, en fait, le club a été fondé quasiment en même temps que la clinique, puisque c'est vraiment un outil majeur dans ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Et ça permet notamment voilà, de créer ce club sous forme d'association et donc d'être un peu plus, de se libérer un peu des contraintes administratives qui peuvent être liées à la structure hospitalière. Et du coup, voilà, le club est là pour offrir une sphère culturelle citoyenne aux pensionnaires. Et donc ça passe par exemple par le fait que le club à l'heure actuelle est géré par un conseil d'administration paritaire, soignant, soigné. Voilà, pour vraiment que chacun puisse avoir cet espace du club comme un espace de citoyenneté où une personne égale une voix, peu importe qu'on soit, peu importe son statut dans la clinique.
Et alors vous, quelle est votre mission au sein de ce club de la Chênaie?
Alors moi, j'interviens sur la partie culturelle. En fait, le club a, on va dire, trois grands axes de travail. Il y a la gestion d'activités quotidiennes comme le fait de tenir la buvette midi et soir. Il y a une activité pour louer des logements aux pensionnaires qui souhaitent s'essayer à une vie, ce qu'on appelle une vie choisie, voilà, un peu plus autonome à l'extérieur de la clinique. Et moi, j'interviens sur l'axe plus de résidence d'artistes, de concerts, d'ateliers. Donc, pour résumer un peu comment je travaille. Moi, je vais par exemple collecter des projets qui me semblent pertinents par rapport au lieu, par rapport à notre budget, etc. Et en fait, le choix de programmation se fait lors de comités où vient qui veut. Pareil, soignant, soigné, c'est ouvert à tous. Et là, voilà, si c'est de la musique, ben, on écoute, on regarde des vidéos, si on en a la possibilité, et on décide ensemble de ce qu'on a envie de programmer au club. Et c'est pareil pour les résidences, on va essayer de trouver des renseignements sur les artistes, voir un peu si ça nous parle ou pas. Et puis voilà, c'est comme ça que se construit la programmation. Et ensuite, à chaque étape, on va travailler aussi ensemble. Donc on va aller faire de l'affichage ensemble, on va monter la scène ensemble. Voilà, l'idée étant vraiment que tout le monde se sente acteur de la construction du projet de A à Z.
Alors, vous expliquez que vous allez repérer des projets ou des artistes qui vous semblent collés au lieu. Et justement, qu'est-ce que vous cherchez, par exemple? Comment dire? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, ah, ce projet-là, il pourrait être intéressant pour la Chênaie?
Ça peut être plein de choses. Je pense que là, par exemple, sur notre prochain concert, ce qui a plu. Et je pense que c'est ce qui crée un peu une résonance avec le lieu, c'est que c'est un duo de chanteuses qui a choisi de chanter en occitan, c'est-à-dire d'aller un petit peu interroger voilà, la norme sociale, l'appartenance à un groupe, et voilà, entre plein d'autres choses. Mais je pense que voilà, venir questionner ce genre de choses fait un peu écho à ce que nous, on peut vivre à la clinique et ce qu'on vient interroger également.
Est-ce qu'il y a d'autres disciplines que la musique, par exemple, qui peuvent vous sembler intéressantes à proposer aux personnes de la Chênaie?
Il y a, oui, on est ouvert à tout. Ça peut être du théâtre, de la photo, de la vidéo, de la danse. Voilà, on est vraiment, il n'y a pas de limite.
Outre le budget.
Outre le budget, oui, ça c'est sûr.
Et d'ailleurs, ce budget par rapport à une salle de spectacle, comment ça se situe et il vient d'où?
Alors, sur la partie culturelle, on est très largement aidé par la région, puisqu'on a un partenariat avec la mairie de Chailles qui nous permet de porter un projet sur une année sur lequel on est beaucoup aidé. Et on est aidé par le département également, par la DRAC, enfin voilà, les subventions un peu habituelles. Et sinon, en fait, c'est les autres activités du club qui permettent aussi de financer ces activités. Donc les recettes du bar, les loyers des logements, ce genre de choses.
y a parfois des réclamations ou des demandes de personnes de la chaînée qui disent bah moi je voudrais ça, moi j'aimerais tel spectacle.
Oui, tout à fait. Le dernier comité de programmation qu'on a fait, c'était à la demande d'un pensionnaire qui voulait proposer des choses qu'il aimait bien, qu'il avait envie de faire découvrir aux autres.
Et par curiosité, comment on devient programmatrice d'un lieu comme celui-là ?
Ah bah ça c'est... Dans mon cas, ça s'est fait un peu... moi j'avais une petite expérience de programmation vraiment il y a plusieurs années, mais voilà, c'était pas mon métier. Moi je viens du côté plutôt organisationnel, logistique, hein, plutôt sur les aspects production, régie. Et je pense que... j'ai postulé, je suis venue visiter, parce que les entretiens d'embauche à la chaînée, c'est toute une journée. On vient visiter, on prend le temps, c'est à l'image du reste, je pense. Puisque, voilà, venir découvrir la psychiatrie, c'est pas non plus anodin. Et je pense qu'il y a eu quelque chose plus dans la rencontre, dans l'envie de venir faire avec les pensionnaires, c'est-à-dire d'arriver avec cette notion que le club de la chaînée, c'est une salle de concert qui est dans une clinique psychiatrique. Et avoir bien notion de ça. Et après, toutes les étapes se font ensemble, il y a aussi quelque chose d'assez chouette, d'assez convivial. Au début, j'ai tâtonné un petit peu et puis ça vient au fur et à mesure.
C'est-à-dire que là, on est dans un endroit, parce que des salles de spectacle, quelles qu'elles soient, il y a souvent un volet médiation culturelle, en fait, qui est important. On parle des publics avec plein de guillemets spécifiques. Mmh. Et donc là, on a l'impression que ces problématiques, elles sont renversées, puisque de toute façon, on est dans un lieu particulier.
Bah c'est ça, la médiation, en fait, elle se fait d'elle-même, hein, de par le projet. Donc... Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye... En fait, le club agit vraiment comme une interface entre l'intérieur et l'extérieur de la clinique. Donc, il y a aussi ce volet de médiation qu'on peut voir dans le sens où faire venir un public extérieur à un concert qui a été préparé par des personnes hospitalisées en psychiatrie, c'est une autre forme de médiation. Et après, il y a cette médiation qu'on fait à l'intérieur... Ou quand on fait venir des artistes pour qu'ils viennent mener un atelier, on est aussi dans une forme de transmission et de rencontre. Donc, dans tous les aspects de ce volet culturel du club, on est dans une forme de médiation, quoi qu'il arrive.
Eh bien justement, je propose de faire une pause musicale et vous nous avez apporté deux sons, Magali Tostin. Alors, lequel on va écouter en premier ?
Eh ben, on peut écouter un groupe qui s'appelle Pad Bra Pad, qui est passé à la chaînée en 2013. Donc moi, je n'étais pas encore là, mais c'est un choix de Gwen Vael.
Alors, on écoute ce titre dans La Méridienne et on se retrouve tout de suite après. Allez, en avant la musique. Thank you. clinique à vendre, clinique à vendre. Je répète, la clinique de La Chênaie est à vendre et les personnes qui y travaillent aimeraient bien la racheter. Alors, pour vous expliquer ça plus en détail et bien mieux que moi, j'ai le plaisir d'avoir en studio toujours mes deux invités, Magali Tostin, en charge de la programmation, production et régie générale du club de La Chênaie, et Gwen Vael Loa-Harer, moniteur à la clinique de La Chênaie. Alors justement, il s'est créé une association des amis de La Chênaie. Alors à quoi sert-elle ?
Quand on a eu l'annonce de cette mise en vente prochaine, forcément, il y a eu une espèce d'effervescence autour de cette annonce. On s'est tous réunis, hein, tous les collègues de la clinique, salariés du club, et puis pour discuter de qu'est-ce que nous on veut pour l'avenir. Et pour structurer un petit peu autour de cette idée, on a créé l'association des Amis de La Chênaie, qui est une entité qui sert à fédérer tous nos soutiens et puis à avoir une structure qui nous permet de communiquer au nom d'un collectif. C'est un petit peu comme ça qu'on a eu l'idée de créer cette association.
Et alors, l'idée, c'est de, si j'ai bien compris, c'est de racheter la clinique de La Chênaie et peut-être de transformer son statut. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Oui, c'est ça l'idée. Suite à l'annonce qui a été faite, en réalité, depuis 2-3 ans auparavant, quelques collègues, pas beaucoup au début, pensaient déjà à la solution de SIC. Alors, une SIC, qu'est-ce que c'est ? C'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et en fait, c'est un petit peu comme la petite sœur des SCOP qui existe depuis un siècle maintenant. Souvent, on connaît deux noms des SCOP sans trop savoir ce que c'est. Les SCOP sont des sociétés coopératives aussi, mais à but de production. Et donc, une SCOP, c'est tout simplement une entreprise qui est détenue vraiment à plus de 51% par ses salariés. Et coopérative, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'une part, elle est détenue par ceux qui y travaillent. Et en plus, il y a une assemblée générale qui met autour de la table tous les sociétaires qui détiennent des parts de cette société-là. Et il y a un temps démocratique qui est lié aux sociétés coopératives où d'habitude, dans les entreprises classiques, c'est l'actionnaire majoritaire, celui qui a le plus de parts sociales dans l'entreprise, qui a la voix prépondérante. C'est ce qui se passe dans toutes les autres entreprises. C'est pour ça que, nous, justement, on ne veut pas boursicoter comme le font d'autres entreprises. Mais en tout cas, ce qui se passe ailleurs, c'est que celui qui a le plus gros portefeuille a la voix prépondérante et gouverne l'entreprise, etc. Dans le droit coopératif, c'est un droit qui se surajoute, qui se superpose au droit des sociétés classiques et qui est organisé par des statuts qui sont votés ensemble, créés ensemble, rediscutés ensemble, éventuellement en assemblée générale. Et donc, dans les SCOP comme dans les SIC, il s'agit de mettre autour de la table les salariés qui détiennent des parts de la société. Et c'est une solution qui existe. Alors les SCOP existent depuis la toute fin du 19e siècle et elles augmentent régulièrement. Il y a le nombre des SCOP qui augmente. Je crois que c'est une hausse de 10% par an et notamment dans les cas de reprise d'entreprise. C'est souvent une solution qui est privilégiée. Et la SIC, donc la solution qu'on veut apporter à cette clinique, ça ressemble au SCOP. C'est aussi une société coopérative où il y aura une assemblée générale annuelle où on va parler des comptes et on va prendre des décisions ensemble. C'est pas seulement la direction et une élite très restreinte de personnes qui vont décider. Il y a vraiment une dimension collégiale et démocratique où on discute de qu'est-ce qu'on va faire des bénéfices, de ce qu'on va faire des bénéfices, de la répartition. Des grandes orientations stratégiques de l'entreprise, et ça, ce sera discuté ensemble, en assemblée générale, avec vraiment une dimension collégiale, démocratique. Et dans les SCOP, cette vie démocratique supplémentaire, elle est basée sur la base de une personne égale une voix, quel que soit l'argent qu'il a investi dans l'entreprise. Et c'est en ça que les sociétés coopératives sont différentes des autres sociétés, des autres entreprises. Et ça, c'est un point commun entre les SCOP et les SIC. Dans les SCOP, les personnes qui interviennent qui sont autour de la table tous les ans pour discuter de ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est d'abord les salariés. Et dans les SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et l'idée, c'est que on a bon, ce qu'on appelle un multisociétariat, c'est-à-dire que les personnes qui vont prendre la parole et qui vont prendre des parts dans cette société, c'est ce qu'on souhaite. Il y a à la fois les salariés qui décident d'être sociétaires, mais aussi des personnes extérieures. Et ça peut être des personnes individuelles qui souhaitent soutenir le projet, des associations, d'autres entreprises, d'autres partenaires, voilà, d'autres associations. Et il peut aussi y avoir des collectivités locales qui sont compétentes pour ça depuis quelques années maintenant. Et la SIC, donc, c'est un statut qui existe depuis 2001 maintenant et qui est notamment calvant en poupe depuis quelques années parce que bon, la loi Hamon en 2014 a favorisé leur développement. Et donc, les différentes collectivités locales peuvent aussi prendre des parts et soutenir ce type de société-là pour consolider l'emploi, un emploi local dans la région, dans une ville, dans un département. Et donc, il y a cette possibilité-là de faire venir intervenir des capitaux extérieurs avec cette idée-là qu'on va se rencontrer sur une certaine idée, en l'occurrence pour nous à la Chenet, une certaine idée du soin, une certaine éthique qui est particulière et qui est mobilisée depuis la création de la clinique, qui était vraiment ancrée et impulsée avec une volonté progressiste depuis le début et qui est identifiée comme telle à l'échelle nationale. Elle est vraiment reconnue comme ça. Et on souhaite pouvoir reprendre la clinique, on est accompagné pour ça, avec ce format-là qui permet de vraiment prolonger des dispositifs qu'on a déjà, et notamment des temps démocratiques qu'on a déjà avec les pensionnaires, parfois entre nous, parce qu'on a une organisation du travail où, par exemple, on n'a pas de responsable RH qui ferait les horaires pour tout le monde. En fait, on fait nos horaires nous-mêmes en respectant les règles du droit du travail et des collègues qu'on a élus et qu'on va élire tous les deux ans, vont réguler et vont occuper certaines fonctions qui sont habituellement dévolues à un service RH pour nous dire bah, là, on a besoin de telle nuit, qu'il y ait des collègues qui fassent la nuit à tel moment. Est-ce que toi, tu peux changer parce que ce jour-là, on est assez nombreux? Et ça, c'est des collègues élus qui le font. Et donc, on a déjà toute une organisation du travail qui est collégiale pour cette régulation-là des emplois du temps, mais aussi pour toute la dimension de l'embauche qui est faite par des collègues élus en grande partie. Et voilà, on a différentes commissions qui existent déjà et on trouve, depuis qu'on connaît les SIC et du coup qu'on est en train de construire ce projet-là de reprise, qu'il y a vraiment un entremêlement et un prolongement mutuel, en fait, entre les dispositions qu'on avait, l'organisation qu'on avait auparavant, qui était liée à ce qu'on appelle le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, et là, le droit coopératif et les sociétés coopératives. Donc on est très content et assez heureux de voir que c'est un projet qui attire, qui est intéressant et où on a quand même, oui, ça rassemble et ça attire l'intérêt des uns et des autres.
Alors pour les Tourangeaux, je les renvoie à la SCOP d'éducation populaire L'Engrenage et à la SIC Le Bateau Ivre.
Oui, voilà, très juste.
Des exemples pour les Tourangeaux. Et donc je me demandais, est-ce que les bénéficiaires de la Chenet peuvent aussi être sociétaires?
Et bah, en fait, effectivement, dans les SIC, dans les SCOP, la majorité, c'est des sociétaires sont des salariés. Dans les SIC, habituellement, on a les salariés, les bénéficiaires et des personnes tierces, donc des associations, etc. Et effectivement, notamment via le club qui est l'intermédiaire, les pensionnaires seront représentés.
Mais c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes dire bah, « moi, j'aimerais contribuer directement ».
L'idée, c'est, comme on est quand même un lieu de soins avant tout, c'est quand même l'entreprise, ce sera d'abord l'entreprise des salariés et on n'est pas forcément favorable à impliquer les pensionnaires pour mettre de l'argent. Enfin, c'est pas leur rôle non plus. Ils sont là pour se soigner et il s'agit de les protéger de ça. Par contre, ils interviendront. Ceux qui le souhaitent pourraient faire, par exemple, un don au club parce que le club les représente et les représentera dans la SIC.
Et alors, puisque comme vous le soulignez, c'est en effet un lieu de soins, donc c'est une particularité évidente. Est-ce qu'il y a besoin d'une égide médicale, disons, dans le cadre de cette SIC?
Effectivement, là, le projet qu'on soutient, on souhaite maintenir ce qu'on appelle bah, une direction collégiale, et donc il y aura un directoire avec quatre personnes permanentes, un suppléant, il y aura un médecin directeur, le président de la CME, le médecin président de la CME, un directeur administratif et financier comme ailleurs, qui interviendra aussi, et puis un conseil technique avec des moniteurs élus. Et donc une partie de ce directoire-là, donc des dirigeants de la clinique, seront élus en assemblée générale.
Et donc, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui se sont manifestées pour vous soutenir, des structures, des municipalités? Est-ce que vous êtes en pourparlers? Je rappelle que cette émission est enregistrée le 9 mai.
Alors effectivement, on est en pourparlers. C'est un peu délicat, mais on sait qu'on va rencontrer certaines collectivités locales. On a des rendez-vous en cours auprès de plusieurs partenaires, notamment une université privée à Angers qui nous soutient depuis de longues dates, Cap Emploi à l'échelle locale, mais tout ça c'est en cours en fait. Et sur le, bon ça c'est, il y a le Château d'Eau aussi.
Oui, qui est la scène de musique actuelle de Blois.
Et à un autre niveau, donc ça c'est les partenaires qu'on aimerait bien agréger au projet, là c'est pas encore lié, c'est pas encore le cas parce qu'on est en train de se rencontrer justement. En revanche, on est soutenu par plusieurs entreprises dont c'est le métier d'accompagner cette transition-là. Alors, on est lié à l'Union régionale des SCOP, dont c'est vraiment le cœur de métier d'aider les entreprises qui souhaitent se transformer soit en SCOP, soit en SIC. Et eux travaillent en lien avec France Active, qui est un dispositif qui donne des solutions de financement, de garantie d'emprunt bancaire, etc., qui peut faire des levées de fonds. L'Union régionale des SCOP fait aussi des emprunts. Permet aussi des emprunts facilitant des garanties, etc. Et donc, il y a tout un réseau, en fait, qui nous épaule et on est content parce qu'on est bien, on est bien outillés là-dessus. Il y a l'Union régionale des SCOP qui est notre interlocuteur privilégié au quotidien. France Active qui nous aide. Il y a la banque partenaire, c'est le Crédit Coopératif, qui fonctionne vraiment aussi dans l'esprit, justement, des sociétés coopératives. Et on a d'autres relais aussi, donc le réseau, le RTES, le réseau des collectivités locales de l'économie sociale et solidaire qui nous aide par ailleurs, et aussi la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Île-de-France qui nous soutient. Et on est content parce que là on est en contact avec un cabinet d'experts comptables qui est aussi en SIC précisément, donc c'est le statut qu'on souhaite avoir, et il se trouve que c'est eux qui s'occupent par exemple, de la comptabilité de Biocoop, d'Emmaüs France, d'Enercoop, qui est un fournisseur d'énergie verte, des Jardins de Cocagne. Et donc vraiment, c'est quand on a appris leur activité, c'était évident qu'on voulait aller vers eux, quoi.
Alors peut-être, si d'aventure parmi nos auditeurs, certains ou certaines souhaitent vous soutenir, comment on fait ?
Il y a plusieurs solutions. Déjà, diffuser l'info autour de soi, hein, voilà, utiliser son réseau pour que il y ait un maximum de gens qui prennent connaissance de ce projet de SIC. Et puis ensuite, vous pouvez aussi, donc, c'est aussi à ça que sert l'association, adhérer à l'association. Donc, soit par une adhésion classique, soit par une adhésion de soutien. Il y a une possibilité de nous faire un don également. Alors ces dons, pour le moment, ne sont pas, n'ouvrent pas à déduction d'impôts. Mais par contre, si, admettons, vous voulez faire un don un peu plus important qui offre la réduction d'impôts, vous pouvez le faire au club de la Chaînée, qui, voilà, comme par la suite, il prendra des parts dans la SIC, de toute façon, c'est un peu le cercle vertueux. Voilà, pour l'instant, les principales possibilités pour soutenir l'association.
On a reçu plusieurs mails de justement des personnes qui connaissent la Chaînée et veulent aider ce projet-là, parce que en général, pour les personnes qui viennent à la clinique, c'est évident qu'une reprise par un groupe privé à but lucratif, c'est exactement ce qu'on veut éviter, parce que ce ne serait pas du tout compatible avec le projet de soins qu'on défend, qui existe sur place. Et donc il y a à la fois l'enjeu de l'emploi, mais aussi l'enjeu du projet de soins en lui-même, qui est original, qui va parfois à rebours, qui va dans le contresens de ce qui est fait par ailleurs. Et donc c'est vraiment un projet de soins qui est original, qui fonctionne bien, c'est un très bon outil de travail. Et beaucoup de personnes, voilà, on a eu des retours de mails de personnes qui souhaitent nous soutenir, ne savent pas forcément comment. Alors il y a effectivement l'adhésion, le fait de diffuser tout simplement les informations déjà, donc cette émission en fait partie. Les dons, défiscalisés ou non. Et pour des personnes qui voudraient vraiment s'investir davantage, ce sera possible de prendre des parts sociales, par exemple, mais ça nécessite une dimension un petit peu administrative. Il faudra donner une carte d'identité, etc. Donc le mieux, c'est d'envoyer un mail directement à l'adresse mail des amis de la Chennai pour prendre contact et vraiment se coordonner pour qu'on puisse discuter ensemble. Et on a jugé que c'était plus raisonnable que des personnes de l'extérieur prennent des parts sociales, donc pour voter en assemblée générale, etc. Ce sera possible à partir de 1 000 euros. Parce que ça nécessite vraiment, pour monter le dossier, un petit niveau de lourdeur administrative supplémentaire. Il faudra fournir une carte d'identité, remplir un petit dossier, bon, léger malgré tout, mais quand même, ça nécessite un petit des dispositions administratives qui ne sont pas automatiques et qu'on ne va pas pouvoir permettre à toute personne qui veut participer à hauteur de 20 euros. Ça, ce sera vraiment pas possible. Voilà.
Mais alors 1 000 euros, c'est-à-dire qu'il y a combien de parts dans votre futur SIC? Parce que si les salariés ont chacun leur part, ça veut dire que ça fait combien de parts?
En fait, le nombre de parts dans une SIC, c'est vraiment, bon, c'est un peu, là, on va arriver dans un débat vraiment technique. On crée le nombre de parts, on crée, on détruit le nombre de parts que l'on souhaite en fonction de la valeur de la clinique. Bon, c'est vraiment technique. Le fait est que ce nombre de parts va dépendre du prix de la clinique qu'à ce jour, on ne connaît pas. C'est-à-dire que on est dans le temps d'une mise en vente qui est en cours avec un processus particulier. Et dans quelques semaines, il y aura un appel d'offres. Et l'appel d'offres va documenter et va renseigner sur une fourchette de prix possible. Et nous-mêmes, notre réseau avec l'Union régionale des SCOP, le Crédit coopératif, ils vont consulter tous ces documents-là et regarder comment eux vont estimer quel prix il est raisonnable de mettre et à quelle offre on va essayer d'atteindre. Et en fonction de cette offre-là, bah, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir déterminer le nombre de parts. Quand on rachète une entreprise, il y a deux parties. Il y a la partie de ce qu'on peut rembourser sur le bénéfice. À la clinique, on a un bénéfice étroit, on va dire. On a un budget plutôt serré, donc on sait que ce bénéfice-là, il est vraiment, bon, il est restreint, mais il est existant quand même et on va l'utiliser. Et donc, il y a cette partie-là de ce qu'on peut se rembourser. Au niveau classique, en général, les banques acceptent de prêter pendant 7 ans à hauteur de 70% du bénéfice. Bon, ça, c'est vraiment l'aspect technique. Parfois, ça peut être plus longtemps. Voilà. Et l'autre partie de ce qui va nous permettre d'acheter la clinique, c'est vraiment les parts sociales. Donc, ce sera complété. Ce qu'on ne peut pas payer en le payant sur le bénéfice de la clinique, ce sera vraiment les parts sociales. Et nos parts sociales à nous, comme on est repreneur en interne, dans une SIC, elles ont vocation à être très importantes au début, parce qu'on sait que le prix sera. On a des ordres d'idées, mais on n'a pas le prix exact. On sait que ce sera élevé et ce ne sera pas du tout gênant que ce capital social diminue. Et ça veut dire que si quelqu'un met plusieurs de milliers d'euros pour avoir une part sociale, on peut d'ores et déjà dire que, en fait, nous, ça nous aide, ça c'est certain. Toutes les parts sociales vont nous aider à racheter la clinique et les personnes qui investissent pourront retrouver leur argent. Par contre, l'argent dont on a besoin, on a besoin vraiment que ce soit immobilisé pendant 5 à 7 ans, le temps que nous, on rembourse le gros des emprunts par ailleurs. Et ensuite, toute personne qui veut retrouver les parts sociales qu'il aura mis dans l'entreprise, eh ben, pourra récupérer cet argent-là. Entre-temps, la clinique aura été sauvée, ça aura vraiment fait la différence pendant ce temps-là. Et toute personne peut faire la demande de récupérer ses parts sociales et la clinique a un délai de 5 ans pour le rembourser. Alors pour donner un ordre d'idée, tout ce qui est en dessous de 10 000 euros, ça pose pas de souci. Dans l'année, c'est remboursé parce que c'est lié à ce qu'on appelle l'amortissement, c'est-à-dire le remboursement habituel. C'est vraiment dans le fonctionnement habituel d'une entreprise, c'est vraiment entre guillemets un filet d'eau qui est déjà quasiment pris en compte. Mais par exemple, pour des sommes plus élevées, bah, ça demandera un échéancier. Et ça permet, si jamais des personnes veulent nous aider, bah, ça c'est sûr que ça peut faire une grosse différence pour nous, soit du côté du don, soit du côté des parts sociales. Et ce qu'on peut assurer, c'est que les personnes pourront retrouver leur argent, ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, en différé, on a besoin vraiment d'argent qui soit immobilisé pendant cette période-là. Et par contre aussi, bah, il n'y aura ni d'intérêt, comme c'est le cas dans des entreprises très lucratives, mais ça, c'est dans le cas de la bourse. Mais nous, on n'est vraiment pas sur ce terrain-là et on n'en a pas les moyens du tout. Et en revanche, on ne pourra pas non plus indexé par exemple sur l'inflation. Ça, on sait déjà que voilà, une personne qui donne 1000, eh ben, elle récupérera 1000 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, en fonction du moment où elle le demandera. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont manifestées outre votre SIC pour reprendre la Chênaie? Est-ce que ça suscite des appétits immobiliers ou autres?
Alors à ce jour, l'appel d'offres n'est pas encore ouvert. La direction qui a lancé l'appel d'offres a prononcé des noms qui n'ont pas spécialement envie. Ils n'ont pas envie que ce soit un groupe énorme, dont ceux qui ont été ébruités dans les médias récemment parce que leur caution est entachée, on va dire. Mais ils ont pensé à des, entre guillemets, des petits groupes. Mais même ça, en réalité, c'est tout ce qu'on ne veut pas non plus, pour des raisons de sauvegarde de l'emploi directe, parce que même un petit groupe fera de la mutualisation. Et en fait, on sait que des postes seront vraiment mécaniquement visés et fragilisés et vont disparaître dans le mouvement. Et puis en plus, à ce jour, effectivement, on est quand même à la croisée des chemins. C'est-à-dire que cette logique de l'appel d'offres-là nous expose à des repreneurs qui feront de la mutualisation, qui vont modifier des choses, parce que la clinique en elle-même est absolument aux antipodes d'être une Formule 1 de rentabilité, et que pour que ça le devienne, ça nécessiterait beaucoup de modifications. Et ce qui sera difficile, parce que la très grande majorité des collègues actuellement en poste soutiennent le projet de reprise intérieure. Et donc du coup, on est à la croisée des chemins, et c'est pour ça qu'on a des bonnes armes maintenant. Alors on n'est pas certain que le projet aboutisse, mais n'empêche qu'on est bien épaulé, bien entouré. On est en train de faire notre levée de fonds de notre côté. Alors dans les semaines qui viennent, on sera en mesure de dire combien nous on va mettre en tant que salarié. Et puis à partir de là, il y aura un effet boule de neige. Combien le réseau de l'Union régionale, de France Active pourront mettre à leur tour, quelle disposition d'emprunt. Si jamais on a des collectivités locales qui nous aident, ce sera évidemment un plus. Si on a des financeurs tiers, ce sera un plus. Et en fait, il y a un effet de boule de neige qu'on va enclencher à partir de la fin du mois. Et on espère évidemment que ça pourra nous aider.
Est-ce que la Chênaie, c'est une zone à défendre, à votre avis?
En tout cas, c'est un lieu qui met en pratique vraiment au quotidien des valeurs qui, elles, sont à défendre et qui ne peuvent pas l'être partout. Et en tout cas, là, elles le sont. Et donc, c'est important d'en prendre soin. Ça, c'est vraiment important.
Alors cette émission va bientôt toucher à sa fin. Peut-être avant de se quitter, voulez-vous nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations et suivre justement la suite de ce projet, si j'ose dire, savoir où en sont vos rencontres, est-ce que vous avez de nouveaux soutiens, où est-ce qu'on peut vous soutenir éventuellement?
Alors, pour se rencontrer dans la vraie vie, c'est possible de venir au prochain concert de la Chênaie, où il y aura un stand d'information tenu par des membres de l'association. Il y aura aussi une soirée projection débat qui aura lieu au cinéma Les Lobbies à Blois. Ce sera le vendredi 3 juin. Ce sera l'occasion justement de déjà diffuser un documentaire qui a été réalisé à la Chênaie, qui sera diffusé en avant-première, et puis ensuite de pouvoir débattre un peu de la situation et d'être informé à ce sujet. Et sinon, sur internet, il y a le site des Amis de la Chênaie, donc lesamisdelachênaie.fr. où on met à jour assez régulièrement les dernières actualités. On est également sur les réseaux sociaux, mais toutes les infos sont sur ce site.
Eh bien, merci à vous. Alors peut-être avant de terminer cette émission, on peut rappeler aussi que vous êtes passé récemment sur France Culture. Alors il y a peut-être d'autres contenus à aller écouter. Et je crois que vous aviez fait aussi un projet radio avec Studio Zef, qu'on salue au passage.
Effectivement, on avait fait ce projet-là avec Studio Zef il y a 2 ans. On avait fait 10 émissions de 1 heure. Alors c'est long à écouter, ça fait 10 heures. Mais en tout cas, ceux que ça intéresse, en général, je recommande la 4e ou la 5e émission, qui était très chouette, où il y a beaucoup de témoignages de pensionnaires très, très vivants, et certains sont absolument, absolument touchants aussi pour leur participation.
Eh bien, merci Magali Tostin et Gwen Vael, Loa Harer.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à tous les deux. Donc, cette émission est à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com. Et voilà, on va se quitter à nouveau en musique. Et c'est une pause musicale que vous avez choisie, Magali Tostin. Qu'est-ce qu'on va écouter?
Alors, c'est un morceau donc du duo Cocagna qui se produira sur la scène du club de la Chênaie le vendredi 20 mai.
Nous le zin bayerum dun, din nous le zin bayerum dun, dun se nes gum mandel lodge, se nes gum mandel lodge, nous le zin bayerum dun, din nous le zin bayerum.